C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Gérard Deltel, leader parlementaire de l'opposition officielle, parce que c'est jour de rentrée parlementaire à Ottawa après deux mois après la réélection de Justin Trudeau. Salut Gérard Deltel.
Bonjour Patrick Lagacé, content de vous parler.
Ben réciproque Gérard. D'abord, écoutez, on va tasser tout de suite les questions avant de parler de ce qui se passe dans votre parti. On va parler de l'agenda politique. D'abord, qu'est-ce qui vous préoccupe au Parti conservateur, sur quoi vous allez poser des questions et talonner le gouvernement dans les prochaines semaines?
Essentiellement le coût de la vie. Je pense que tous ceux qui nous écoutent se sont rendus compte au cours des derniers mois particulièrement de l'augmentation des prix, que ce soit les aliments, que ce soit les besoins essentiels, que ce soit évidemment l'essence bien entendu, mais quand on est rendu avec une inflation à 4,7%, qui est la plus haute inflation depuis 2003 et qu'on n'a pas de plan pour redresser la situation, ben je pense qu'il faut absolument qu'on apporte ces questions-là à la Chambre. Donc nous, on va faire des débats d'urgence là-dessus. On veut débattre des questions. Les questions à la Chambre des communes vont porter là-dessus. Le coût de l'inflation pour les familles canadiennes qui ont à faire face à ça. Évidemment, les entreprises aussi qui font face à la pénurie de main-d'œuvre. Ce sont les éléments qui vont dominer notre rentrée parlementaire, le porte-monnaie des contribuables.
Sur l'inflation, Gérard Deltel, là, qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire concrètement à court terme, parce qu'on sait que la politique monétaire, c'est quand même le travail de la Banque du Canada, qui est indépendante du gouvernement.
Elle est indépendante, mais quand vous avez le premier ministre qui dit « Moi, la politique monétaire, ça m'intéresse pas », c'est comme un free ride que tu viens de donner à la Banque du Canada. La Banque du Canada, elle a fixé un taux qui serait de 1 à 3 maximum. Or, le gouvernement s'en fout royalement de ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut comprendre que si aujourd'hui on est pris avec une inflation, qui on reconnaît là, attention, l'inflation, ça frappe pas mal tous les pays du monde. On en est conscient, après une pandémie, ça arrive. Mais quand on a dépensé sans compter, quand on n'a pas du tout respecté le fait qu'on donnait de l'argent à des gens pour rester à la maison plutôt que de retourner au travail alors qu'ils auraient pu et dû retourner au travail, vous créez des mesures inflationnistes qui font qu'en ce sont des mesures inflationnistes qui font en sorte qu'aujourd'hui, ben tous les Canadiens en payent le prix. C'est beau, on comprend qu'il fallait prendre des mesures très graves il y a un an et demi. C'est le gouvernement qui fermait l'économie, le gouvernement devait aider l'économie, ça va de soi il y a un an et demi. Mais dès l'été dernier, on se souvient, on s'en était déjà parlé, il y avait des signaux d'alarme sur le fait que le gouvernement dépensait trop, qu'on imprimait trop d'argent, mais résultat, aujourd'hui, on en paye le prix.
OK, je vous amène sur un autre enjeu, celui de la prolifération des armes au pays. Là, Montréal est en train de vivre ce que Toronto vit depuis plusieurs années, des armes faciles d'accès, des gens qui se tirent dessus en pleine ville. Il y a deux jeunes adolescents là, dans la dernière année qui sont morts comme ça à Montréal. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait et devrait faire rapidement?
Malheureusement, on constate que la plupart des crimes de cette nature-là sont commis par des actes, par des armes illégales. Et souvent, ce sont des gens qui sont liés à des gangs de rue, des choses semblables. Pas tous, on le comprend. Mais essentiellement, c'est ça. Pour ça qu'à Toronto puis à Montréal, on a une augmentation vertigineuse qui, malheureusement, ont fini parfois par des meurtres qui ont, malheureusement, coûté la vie à des gens. Donc il faut agir là-dessus. Qui dit armes illégales dit infiltration des gangs de rue, infiltration des groupes armés. Quand je dis groupes armés, c'est-à-dire des groupes illicites du monde interlope. Et serrer la frontière. Malheureusement, on constate qu'il y a trop de va-et-vient avec la frontière, il y a trop de laisser-aller à la frontière. Et je vous dirais sincèrement, M. Lagacé, que ça fait des années que nous, les conservateurs, on tape sur ce clou-là de taquer directement les gangs de rue, le crime organisé, les frontières, où il y a une prolifération. C'est pas la seule avenue qu'on doit regarder, mais ce sont des avenues qu'on doit regarder que le gouvernement n'a peut-être pas réglées de façon très sérieuse au cours des dernières années, avec le triste résultat qu'on voit aujourd'hui.
Mais vous connaissez la géographie comme moi, Gérard Deltel, là. La frontière canado-américaine, c'est la plus grande frontière non défendue au monde, ce qui a plusieurs avantages. Notre commerce en est facilité. Comment est-ce qu'on bouche les trous de la passoire?
Je vous dirais, puis encore là, j'écoute ce que les experts m'ont dit, parce que là-dessus, je l'avoue que c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais ce que les experts nous disent, c'est que la meilleure façon de régler les frontières, c'est littéralement d'infiltrer les groupes criminalisés. Et ça, c'est sûr que ça prend du temps, ça prend de la patience, ça se fait pas du jour au lendemain. D'où l'importance d'agir très rapidement et depuis longtemps là-dessus, ce qui malheureusement on a failli à la tâche là-dessus. Quand on est capable d'infiltrer les groupes criminalisés, plutôt que de surveiller 5000 kilomètres, on servait quelques personnes et on les surveille de près et on peut les capturer à ce moment-là. Évidemment, c'est facile à dire pour moi, qui suis un observateur, mais je pense que plus que jamais, avec les crimes qui ont lieu dans les villes, que ce soit Montréal, Toronto ou ailleurs, on doit agir vraiment de façon plus que préventive, de façon active pour limiter le crime organisé dans ses actions, les gangs de rue et la frontière.
Je vous amène sur un autre sujet, OK? C'est celui de la vaccination, oui. Là. Je veux pas rentrer dans le fin détail, mais ça a été, il y a une petite partie de théâtre parlementaire à Ottawa, là, qui, de ces dernières semaines, on a demandé aux députés de venir au Parlement uniquement s'ils étaient vaccinés, là, dans la famille conservatrice. Il y a des gens qui refusaient de dire s'ils étaient vaccinés. Il y avait des doutes sur la vaccination de certaines personnes. La question que je vais vous poser là-dessus, Gérard, c'est, écoutez, pourquoi ces questions-là se posent pas sur le caucus libéral, sur le caucus bloquiste, sur le caucus néo-démocrate? Pourquoi les questions qui touchent les doutes face à la vaccination, c'est dans votre famille conservatrice?
Évidemment, il y a le poids du nombre là-dedans, puis je veux insulter personne, mais c'est sûr que quand vous avez un caucus de 25 ou de 32, ben les chances de possibilité sont plus minces que quand vous avez un caucus de 120 ou de 150 comme les libéraux. Je tiens à vous rappeler également que les libéraux, il y avait eu jusqu'à tout récemment un député qui refusait la vaccination. Ça c'était connu, ça aussi. Chez nous, oui, il y en avait des gens qui avaient la réticence. Nous, on a plaidé à tour de bras. J'ai plaidé personnellement. Je me suis mis à la face sur Facebook, Twitter avec mon double vaccin, puis j'ai mangé mon char de chenoute pas à peu près par les smats qui nous ramassent dessus. Le dit après avoir été élu par 20 000 votes de majorité, disons qu'on est capable de passer à travers. Mais la réalité, M. Lagacé, c'est que c'est une question qui est personnelle, puis il faut respecter le choix. Puis c'est pas en les insultant qu'on va les convaincre, au contraire. Mais résultat, notre chef l'a annoncé d'ailleurs aux coulisses du pouvoir en fin de semaine, résultat, tous les parlementaires conservateurs ont été soit vaccinés ou ont obtenu les exemptions qui étaient prévues par le règlement. C'est pas un petit cadeau pour faire plaisir au Parti conservateur. Tous les parlementaires avaient accès exactement aux mêmes règles, évaluées de la même façon par la Chambre des communes qui, elle, consultait les experts médicaux et en sont venus à la conclusion que nous étions tous corrects.
Je vous pose la question. Sur les exemptions médicales, il y en a combien dans votre caucus?
Je ne le sais pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne le sais pas. Parce que ceux qui le savent, ils sont très peu nombreux, ont eu ces informations-là de façon de gré à gré avec les personnes qui sont ciblées dont on parle, parce que justement, c'est une affaire privée et il n'était pas question pour eux d'en parler. Moi, ce qui m'importe comme parlementaire, c'est de savoir que ceux qui autorisent ou n'autorisent pas l'accès à la Chambre sont des gens indépendants. C'est la Chambre des communes qui consulte des experts. C'est pas le Parti conservateur qui consulte ses experts, c'est la Chambre des communes. Et c'est pour ça que je trouve ça d'une... Je connais la game politique, je connais la bonne partisanerie, j'aime ça, mais quand j'ai vu mon vis-à-vis aujourd'hui, M. Holland s'en allait dire, qui mettait en doute le fait qu'il y avait des gens qui avaient obtenu des exemptions, hey, c'est pas nous autres qui décidons, mon homme, c'est les médecins consultés par la Chambre des communes qui définissent.
Gérard Deltel, vous êtes sur les mêmes médias sociaux que moi, vous vivez dans la même société que moi, puis les gens qui nous écoutent, là. Vous pouvez reconnaître quelqu'un qui est un négationniste du vaccin quand vous en voyez un. Puis la question, ma dernière question, y en a-tu dans votre équipe de députés?
De négationnistes de vaccins, non. Ceux qui avaient des préoccupations par rapport à ça pour des questions de santé, oui, c'est arrivé. Et ces gens-là ont suivi les règles qui avaient été définies par la Chambre des communes, neutres et objectives. La Chambre des communes consulte des experts dans la matière de santé qui, eux, définissent si oui ou non la personne peut avoir ça. Il n'y a pas eu de passe-droit d'aucune façon. Puis moi, je préfère, et de loin, que ce soit des médecins qui définissent si telle personne peut avoir une exemption ou non, plutôt que ce soit des politiciens partisans. Vous avez une affaire. Il y a mille bonnes raisons de faire une bonne bataille politique. Puis j'aime ça, moi, faire des bonnes batailles politiques partisanes, mais jamais sur la santé publique, jamais sur la santé des gens.
Toujours un plaisir de vous parler. Je sais à quel point vous aimez le jeu parlementaire. Bonne rentrée parlementaire, M. Deltel.
Merci beaucoup.
Salut. Au revoir, M. Lagacé. À la prochaine. C'est Gérard Deltel, leader parlementaire de l'opposition et député, fier député de Saint-Laurent dans la région de Québec. On l'a vu, là, le premier ministre Legault a lui-même annoncé un exercice, disons, pour donner un électrochoc au hockey québécois. Et le but avoué, c'est d'envoyer plus de joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Un des buts avoués, on va le mettre comme ça. Et aussi, il a nommé M. Legault, puis ça a fait sourciller beaucoup de gens, dont je suis, le ministre des Finances, Éric Girard, comme ministre délégué au retour des Nordiques. C'est pas vrai. En toute justice, il est pas ministre délégué, mais c'est lui qui a la responsabilité de s'activer là-dessus. On va aller parler de tout ça et bien d'autres sujets avec notre ami Jérôme Landry, qui est animateur à notre station sœur à Québec, le FM 93. Salut, Jérôme!
Salut Patrick.
Bon, écoute, est-ce que t'as popé le champagne quand t'as appris que Éric Girard devenait officiellement le porte-ballon du dossier des Nordiques au gouvernement?
Non, je t'avoue, Patrick, que ça m'a laissé un peu froid.
T'sais, ah oui?
Faudé, hein, aussi. Ouais, ouais, une dizaine d'années, écoute, j'étais tellement impliqué que j'étais beaucoup dans mes émotions. C'est beaucoup ça, le hockey, hein, c'est
mais,
des émotions.
Bien sûr.
Et là, on dirait que je suis beaucoup plus réservé. C'est parce qu'on voit la stratégie politique grosse comme ça, là, grosse comme le centre du Vidéotron. C'est assez clair et c'est assez évident. Puis je pense que le gouvernement s'en est pas caché. Ils veulent parler de autre chose que la COVID. Puis c'est assez facile de s'imaginer qu'ils ont essayé de chercher des sujets rassembleurs pour les Québécois. La fibre des Québécois, c'est dans notre ADN. Là, OK, parfait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on va relancer le rêve de ramener les Nordiques. Je trouve que ça manque un peu de subtilité là-dessus, là, mais ça peut pas nuire en même temps.
Ça peut pas nuire, mais écoute, je pense qu'il y a des gens qui ont exposé à Gary Bettman là, avec plein d'arguments pourquoi Québec devrait revenir. Si ça n'a pas marché, en quoi c'est le travail d'un ministre de faire ça, cette forme de lobby-là, tu penses?
Ben, la question se pose, puis moi je comprends les gens qui ont des réserves là-dessus, surtout dans le contexte actuel, de voir un ministre important du gouvernement consacrer une partie de son travail à ça, je le comprends très bien. Par contre, il faut se demander pourquoi ça n'a pas fonctionné. T'sais, souvent, on a l'impression que Gary Bettman n'est pas Québec, qui est contre le retour des Nordiques. Moi, je pense qu'il y a un aspect duquel on parle pas assez souvent, c'est que moi, je suis pas certain que Pierre-Carl Péladeau voulait vraiment dépenser 500, 600 millions US pour une franchise. Et si le travail du ministre consiste à établir et maintenir un lien avec Gary Bettman, puis en même temps, peut-être essayer de trouver des investisseurs qui vont eux aussi mettre de l'argent là-dedans, je comprends un peu plus pourquoi on le fait. Parce que je pense qu'une des raisons importantes pourquoi on n'a toujours pas d'équipe de hockey, c'est le prix de la franchise. Je pense que les Québécois voulaient ramasser une franchise pas chère, une franchise en difficulté, un déménagement, c'est pas arrivé. Mais payer 600-700 millions comme les gens de Seattle viennent de faire, moi, je suis pas sûr que c'est ça que souhaitait Pierre-Carl Péladeau. Donc, si le ministre garde le contact avec la Ligue et que ça réveille des investisseurs, des partenaires potentiels, ça peut peut-être être ça, son travail. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment des partenaires potentiels qui existent? Moi, je les connais pas présentement. Là.
Okay.
Des fois, on parle des démarrais. Je vois pas ce serait quoi l'intérêt des démarrais d'opérer un club de hockey à Québec. Mais bref, on verra.
Et je sais que tu es papa d'un fils gardien de but dans le hockey mineur. Dis-moi, comment t'as réagi en voyant M. Legault sur la glace du Centre Bell, au Centre Bell, faire une conférence de presse pour stimuler le monde du hockey? Trouves-tu que c'est le job d'un gouvernement de faire ça avec autant, je te dirais, de brou?
Ben, un peu oui. Un peu, Patrick, parce que c'est sûr qu'on peut faire le débat, puis les gens qui amènent ça ont raison aussi de dire, regarde, il y a de la violence dans les rues à Montréal, on est encore en pandémie, pénurie de personnel des hôpitaux, pénurie de personnel et d'employés partout dans les écoles, etc. En même temps, il y a quelque chose de très sain dans le sport. T'sais, le sport, c'est rassembleur, c'est bon pour la santé aussi. Je veux pas s'impliquer et sortir des arguments un peu vides là-dessus, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Mais moi, j'ai des réserves sur l'objectif. T'sais, si le but, c'est de former des joueurs, les futurs joueurs de Ligue nationale, je pense qu'on rate la cible. Moi, tu parlais de mon implication. Moi, maintenant, je suis rendu vendu au hockey scolaire, Patrick. Moi, je pense que ce qu'on doit viser, puis chacun organise sa vie comme il veut, mais moi, ce que je vise, c'est de former un jeune étudiant athlète qui va faire ses études en même temps qu'il pratique son sport. Mmh. Puis, je veux pas détruire le hockey civil, mais je trouve qu'on de vouloir absolument former une élite pour penser qu'ils vont porter le chandail du Canadien. Je suis pas sûr que la cible est bonne, là. Je suis pas trop sûr des résultats tellement l'entonnoir est étroit, là.
Jérôme, tu touches à quelque chose de vraiment intéressant. Il y a du hockey, du sport scolaire, on va dire, d'étudiants, de bons étudiants. C'est-à-dire que pour rentrer dans le programme, il faut que tu aies une certaine note. Moi, il y a deux ans, je suis allé visiter une école en Mauricie, je pense que c'est dans le coin de Shawinigan, OK?
Oui.
Et eux autres, ils ont un programme scolaire. Les notes, on s'en fout. Tu veux jouer au hockey, tu veux étudier, ben tu joues au hockey puis t'étudies. Puis ce modèle-là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que tu sais, des pratiques à 9h le soir, t'en as moins. Donc tout ça est en harmonie avec le calendrier scolaire, fait que les kids se couchent moins tard. L'après-midi, ils vont jouer au hockey. Je trouve que il y a quelque chose de très harmonieux là-dedans.
Ben c'est exactement ça. Puis juste te donner un exemple concret pour venir là-dessus, Patrick. Là, tu sais, à Québec, ici, là, je sais pas vous autres à Montréal, mais je pense que c'est le cas aussi. Ici, à Québec, le hockey scolaire est en explosion, littéralement, là, dans les écoles secondaires. Par contre, Il y a un débouché au collégial dans les cégeps, mais il n'y a pas de rouge et or hockey à l'Université Laval. On sait qu'il n'y a pas de débouché universitaire dans une ville comme Québec. Fait, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. J'espère, en tout cas, qu'ils vont tenir compte de ça, parce que c'est bien beau vouloir former des Patrice Bergeron et des Philippe Dano. Oui. Mais il faut pas oublier que pour l'immense majorité des joueurs de hockey, des joueuses, ce sera pas un gagne-pain, le hockey. Ça va rester un sport. Ils vont devoir se trouver autre chose pour gagner leur vie.
Et tu sais, Jérôme, tu l'as dit là, dans le début de ta réponse, tu dis... Le sport, c'est bon. Évidemment que c'est bon. Moi, mon bug, ben, je l'ai écrit dans la presse en fin de semaine, là, tu l'as peut-être vu, là. Bug, c'est, tu sais, si le PM avait dit, hey, savez-vous quoi? Il faut que les Québécois bougent plus, puis ça va commencer avec les jeunes. On va faire un effort pour tous les sports. Aucun problème. Écoute, j'aurais applaudi, ovation debout tout seul dans mon salon. Un sport que j'aime, mais pourquoi ce sport-là? C'est ça que je comprends pas.
Ben exactement, mais c'est là qu'ils moi, j'ai l'impression qu'ils se sont penchés. Ils ont essayé de trouver des points qui pourraient nous rassembler, les Québécois, pour ça. Pour l'après-pandémie, puis ils sont tombés sur le hockey parce que, à quelque part, ils n'ont pas tort non plus. C'est vrai que c'est rassembleur, c'est vrai que ça nous unit tous, mais encore là, c'est la même chose un peu là-dessus. Je trouve que la stratégie politique est peut-être un petit peu trop évidente là-dessus aussi. Là.
Merci, Jérôme. Écoute, le temps nous manque. Je vais te réinviter pour qu'on se fasse un segment troisième lien. Tu feras un petit peu d'évangélisation auprès des gens de Montréal.
J'ai beaucoup de choses à te dire là-dessus.
On va trouver une plage cette semaine ou la semaine prochaine. Merci, Jérôme. Okay. Salut à tout le monde au FM 93. OK, on continue en sport. Oui, exactement. Le rêve est là, à portée de main. On peut presque toucher au chandail bleu.
Patrick Lagacé en accéléré.
Un peu après 17 heures, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, va être avec nous. On va parler de ce projet-là que le ministre de rendre l'agriculture, disons, plus facilement accessible pour des gens qui ont des petits projets. Donc, ça implique le morcellement de certains territoires agricoles. Tout ça suscite quelques réserves, quelques inquiétudes aussi à l'UPA, par exemple, mais aussi chez certaines voix en agriculture. Catherine, après la pause, on va parler d'un nouvel album de Sting.
Oui, il était temps qu'il y ait du nouveau matériel. De Sting. C'est un album réconfortant puisque ça sonne vraiment comme du bon vieux Sting. Il est allé retrouver ses bases, son ADN. Il a signé quelques nouvelles chansons. Ça donne un album avec une seule relecture d'un autre artiste. Oh. Je vous garde la surprise.
On va écouter tout ça dans 10 minutes. 15h29, je me tourne vers André Veillette, immunologiste à l'Institut des recherches cliniques de Montréal. On va parler de vaccination des enfants et de troisième dose. Docteur Veillette, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Merci d'être là. Écoutez, commençons par les 5-11 ans. Je vous vois aller sur Twitter, vous commentez beaucoup la vaccination, vous êtes pro-vaccination. Aux États-Unis, la vaccination des 5-11 ans a commencé, on sait que ça s'en vient chez nous, 3 millions de doses administrées.
Ouais.
Avec les données qu'on a, quel portrait se dégage?
Ben, il semble que c'est bon, on voit qu'il y a l'air d'avoir un enthousiasme à vacciner les enfants aux États-Unis. Je pense qu'on va voir la même chose ici. Mais ce qu'on entend dire jusqu'à venir, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'effets secondaires là, rapportés qui seraient problématiques. Évidemment, on pense surtout au myocardite, au péricardite. Je pense que les parents ont vraiment peur de ça. Alors, il semble pas que aux États-Unis, ça fait une couple de semaines, au moins qu'ils vaccinent, que ce soit un problème. 3 millions, c'est quand même pas mal d'enfants. Évidemment, il faut voir les données définitives. Là, ça, c'est juste les rumeurs qu'on entendait. Mais je pense que c'est bien amorcé là-bas. Ici, on va avoir un intervalle de 8 semaines entre les deux doses, ce qui est différent du 3 à 4 semaines qu'ils vont avoir là-bas. Donc, ça va aussi nous donner une fenêtre un peu plus grande pour observer ce qui se passe là-bas. Ce qui devrait aussi être une source de soulagement pour les parents.
C'est quoi une myocardite?
Myocardite, c'est une inflammation du muscle du cœur, puis il y a la péricardite aussi, qui est une inflammation de l'enveloppe qu'il y a autour du cœur. Alors ça, il y a toutes sortes de causes, ça peut être des virus, ça peut être la COVID, le virus de la COVID peut aussi causer ça, mais c'était un des effets secondaires rares qu'on voit avec le vaccin, les vaccins d'ARN, que ce soit Pfizer ou Moderna. Ça se présente avec des douleurs, de la difficulté à respirer. Habituellement, c'est après la deuxième dose, et puis c'est surtout dans les 18 à 29 ans, puis il semble que, et chez les hommes. Donc, il semble que ça soit dû au relié au niveau de testostérone, qui habituellement sont pas très hauts chez les 5 à 11 ans. Donc, je pense que c'est une raison aussi pour laquelle les gens sont confiants que ça va bien aller chez les enfants. Plus le fait que la dose chez les enfants, c'est le tiers de la dose de chez les 12 ans et plus.
Est-ce que dans ces 3 millions de doses qui ont été administrées à des enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis, est-ce que les réactions, disons, plus des effets secondaires, ça se compare à ceux d'autres vaccins?
Je pense que oui, jusqu'à venir, il n'y a rien de spécial qu'on a entendu. Puis c'est la même chose avec leur étude qu'ils avaient faite, l'étude phase 3. C'est des effets secondaires habituels, là, douleur, fièvre un peu, malaise et tout, mais rien d'inhabituel. C'est sûr que les gens disent, bah, c'est pas beaucoup, c'est quelques milliers, c'est pas des centaines de milliers d'individus qui ont suivi dans ces études cliniques-là, puis ça, c'est vrai. Mais je pense que, comme vous avez dit, il y a eu 3 millions de jeunes Américains qui ont 5 à 11 ans qui ont été vaccinés depuis les dernières semaines, puis il semble que tout va bien. Comme j'ai dit, ici, on va rajouter un autre niveau de précaution, c'est qu'on va étirer l'intervalle à 8 semaines entre les deux doses, donc ça va nous permettre de continuer d'observer ce qui se passe aux États-Unis. Si jamais il y a un signe, quelque chose qui accroche, bien évidemment, ils vont rajuster le tir, mais jusqu'à venir, ça a l'air assez correct, là, tout ce qui se passe.
OK, Dr Veillette, vous êtes immunologiste, je le rappelle. Là. Sur Twitter, vous revenez souvent sur l'importance d'une troisième dose de vaccin. Ouais. Et là, j'aimerais que vous expliquiez aux gens qui nous écoutent, là, en quoi, quels enseignements on peut tirer des endroits dans le monde où on a, répandu là, cette troisième dose?
Je pense de plus en plus tous les pays dans le monde, là, évidemment, il y en a qui n'ont même pas donné une dose, là, alors on ne parle pas de ça, mais tous les pays qui ont accès au vaccin, je pense, vont aller pour une troisième dose. Et il semble que ce vaccin-là, puis là, je cite le docteur Fauci aux États-Unis, qui est vraiment là, un grand expert dans le domaine, pour lui, les vaccins d'ARN contre la COVID, c'est des vaccins trois doses. Alors, c'est un nouveau virus, c'est des nouveaux vaccins, on apprend au fur et à mesure. On espérait que deux doses, ça allait être assez. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'après la deuxième dose, même avec un long intervalle comme on a eu ici, puis on a aussi utilisé ça en Grande-Bretagne, on voit que les niveaux d'anticorps baissent progressivement. Pas suffisamment pour amener les gens à l'hôpital, du moins où on en est rendu dans le temps, là, puis c'est ce qu'on observe aussi ici, mais suffisamment pour qu'on commence à avoir des cas légers, puis même de la transmission chez les gens qui sont vaccinés. Alors, vous pourriez dire, ben endurons-le, c'est des cas légers et tout, mais moi, je regarde Marc Bergevin, là, qui n'a pas l'air en forme avec la COVID, ou le gars, le député conservateur, là, qui est en quarantaine.
Monsieur Lehoux,
puis je me dis, si on peut éviter ça avec une troisième dose qui est disponible, qui est sécuritaire, pourquoi pas? Alors, aux États-Unis, ils ont commencé là, depuis récemment. La semaine dernière, ils ont recommandé que tout le monde, essentiellement, au-dessus de 18 ans, reçoive une troisième dose. Et puis, c'est la même chose en Israël. Et puis, je pense que les pays d'Europe aussi se rangent comme ça. La Grande-Bretagne, qui avait un intervalle long comme le nôtre, entre les deux doses, maintenant recommande que tous les gens de 40 ans et plus, 5 mois après la deuxième dose, reçoivent une troisième dose. Alors, je pense que ça va être la façon de faire. Bon, ici, c'est sûr qu'on a commencé à le faire. On le fait dans les CHSLD, les RPA. Là, on est dans les 70 ans et plus. Évidemment, on a fait les immunocompromis. Mais je pense qu'il y aurait d'autres groupes chez qui on devrait aussi faire ça. J'espère que ça va être le cas. Un peu, ce que j'aime pas du fait qu'il n'y a pas de plan clair au sujet de la troisième dose, c'est que les gens peuvent peut-être être sur l'impression qu'on n'en aura pas de besoin ici parce qu'on est dans une situation spéciale. Je pense qu'on n'a pas de situation spéciale ici. On va en avoir de besoin. Puis finalement, si on n'est pas clair que ça va être important de le faire plus tard, on fait quasiment la job des anti-vaccins. Et puis quand on va l'offrir, les gens vont dire « Ouais, mais il me semble qu'on m'a dit que j'en avais pas de besoin. » Alors, je pense qu'il faut faire attention. Il faut avoir un plan clair puis il faut expliquer clairement aux gens.
Quel groupe devrait être vacciné avec une troisième dose, d'après vous, là, en priorité?
Ben là, j'ai mentionné ceux qui l'étaient déjà. Je pense que les prochains, là, ça devrait être les travailleurs de la santé. Je pense qu'on les a oubliés, eux autres. Même le CCNI au fédéral, là, le comité fédéral, avait recommandé de vacciner les travailleurs de la santé. Ça fait quand même plusieurs mois, je pense 6 mois au moins, qui ont été vaccinés. Vous pourriez dire encore là, c'est des jeunes, ils sont en forme, une maladie légère, c'est pas grave. Mais bon, maladie légère, ça peut quand même être problématique. Ça peut donner des COVID longues. Puis évidemment, ils voient des patients, eux autres, ils voient des gens qui sont potentiellement vulnérables. Puis on sait que des maladies légères, on peut les transmettre. Alors, je pense qu'on devrait amorcer ça assez vite chez les travailleurs de la santé. Je pense qu'ils ont des problèmes de logistique, parce qu'évidemment, ils veulent vacciner les enfants. C'est une autre histoire de vacciner les enfants. Il faut qu'il y ait un paysage de jungle et tout. Il faut qu'ils changent vraiment la façon de le faire. Et puis, évidemment, ils sont encore en train de vacciner dans les CHSLD et les RPA. Alors, il y a peut-être des problèmes de logistique. Mais ce que moi, j'aimerais qu'on fasse, c'est s'ils pourraient donner un plan clair de qu'est-ce qu'ils vont faire, de sorte que les gens qui se posent des questions, les gens qui pensent que pour eux, ça va être important d'avoir une troisième dose, que ces gens-là sachent ce qui se passe.
Mais l'appel est lancé. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Dr. Veillette.
OK, c'est moi qui vous remercie.
À la prochaine. André Veillette, immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Vous l'avez entendu, c'est un appel qu'il lance depuis quelques temps sur Twitter, Dr. Veillette. Il faudrait que le gouvernement arrive avec un plan pour savoir qui devrait être vacciné avec une troisième dose.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'était dans le journal de Devoir ce matin, une enquête sur les Québécois qui sont morts sous les balles de policiers ces dernières années, depuis 20 ans. Il y en a 81 qui ont été tués lors d'interventions policières. C'est une enquête qui est vraiment intéressante sur le profil qui peut faire en sorte que, écoutez, vous allez vous faire tirer dessus par la police lors d'une intervention. Amélie Pineda est journaliste au Devoir. Elle signe cette enquête, ma foi, fort intéressante. Salut, Amélie.
Salut, Patrick.
Si un portrait type du Québécois qui est tombé sous les balles de la police au cours des 20 dernières années, ce Québécois-là ressemblerait à quoi?
Ben, en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec ma collègue Stéphanie Vallet, qui a fait l'enquête avec moi, c'est que ce Québécois ressemble un peu à Jean-René Junior Olivier, qui est décédé au mois d'août dernier à Repentigny. En fait, ça a justement été la prémisse de notre enquête parce qu'on avait l'impression que l'histoire se répétait. Donc, souvent, on a l'impression que c'est le même scénario qui se reproduit. Ce qui ressort de notre enquête après avoir analysé tous les rapports de coroner, c'est que c'est un homme fin trentaine, souvent armé d'un couteau, dans 70% des cas en crise, avec soit un problème de santé mentale connu ou ayant tenu des propos inquiétants dans les semaines précédant l'événement. Seulement 10 des 81 Québécois dont on a fait le profil commettaient un crime au moment des événements. Donc, les autres avaient été interpellés pour d'autres raisons, mais il y en avait 10 là-dedans qui étaient en train de commettre réellement un acte criminel, si on peut dire ça comme ça.
C'est intéressant parce que ça pose toute la question, disons, du fait que les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale sont nombreux et la police intervient souvent comme ça. Qu'est-ce qu'on sait de la proportion d'appels auxquels doit répondre la police là, qui concernent des cas de santé mentale?
Ben, en fait, c'est qu'on se rend compte que les corps de police, de plus en plus, les appels auxquels ils répondent, ça va être pour des choses non criminelles. Donc, des appels liés à soit des conflits familiaux, de la violence conjugale, ou même des problématiques sociales. Et au même moment où on dit ça, ben, il y a encore quand même l'usage de la force qui est très, très présent dans nos corps policiers. Donc, demain, ça va justement être le deuxième volet de notre enquête. Tout ce qui touche la formation policière, parce qu'elle aussi, elle a été pointée du doigt à de nombreuses reprises dans les rapports de coroner dans les dernières années. Donc, on a vraiment voulu comprendre, est-ce que nos policiers sont adéquatement formés? Est-ce que la formation commence à avoir un peu de poussière sur elle ou est-ce qu'on l'ajuste?
Bien, ça, c'est intéressant parce que moi, je sais que les policiers sont formés à l'école de police puis dans leur formation continue. S'ils font face à quelqu'un qui a un couteau ou un tournevis, quelque chose comme ça, là, si le suspect, la personne, est dans une zone, je pense que c'est 7 ou 8 mètres à l'intérieur, eux, ils se font enseigner qu'il faut tirer parce que là, tu es à quelque chose comme une seconde et demie de te faire poignarder.
Oui. Ben, en fait, Patrick, c'est 21 pieds. Il appelle la règle du 21 pieds. Puis okay. Demain, vous allez pouvoir me voir en action parce que j'ai testé cette règle-là à l'école de police. On m'a mis en situation, donc j'ai subi une agression armée pour comprendre à quel point c'est difficile justement de dégainer, de tirer à moins de 2 secondes alors que la personne se trouve à 21 pieds de toi. Par contre, c'est certain que la formation a été ajustée dans les dernières années. La clé, ce qu'on en comprend, c'est le temps. Donc, les interventions policières qui ont mené à des décès sont survenues très, très rapidement. Des fois, on parle de 5 minutes à peine. Et on sait que si on veut peut-être avoir une solution pacifique, c'est de faire en sorte que les policiers prennent leur temps. Au lieu de peut-être être en confrontation, d'être dans une approche de communication, au lieu de dire « lâche ton couteau », plutôt essayer de comprendre pourquoi la personne a un couteau. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir explorer demain.
Amélie,
dans notre deuxième volet.
Amélie, avec ta collègue Stéphanie Vallet, tu as parlé au coroner Luc Malouin, qui lui ne s'étonnait pas des conclusions du devoir et il a enquêté dans la mort violente d'Alain Magloire et en plus, il est là sur le point de rendre son rapport dans le cas d'un autre homme, Monsieur Coriolan. Au niveau du coroner, c'est là que vous avez trouvé vos données pour faire la compilation, là, pour dresser le portrait robot du Québécois type tué par la police.
Ben oui, parce que les coronaires, dans le fond, eux, une fois qu'ils ont dressé les antécédents en toxico, tout ça, ils ont quand même la possibilité d'émettre des recommandations. Puis nous, il y a cette portion-là qui nous a beaucoup intéressés parce qu'il y en a certaines qui se répètent. Et je veux dire, Mario Hamel, Alain Magloire, ça fait déjà quand même 6-7 ans que c'est arrivé, ces situations-là. Puis on a l'impression qu'encore au mois d'août, il y a une situation similaire qui s'est produite. Donc, nous, notre objectif, c'est de voir est-ce que ces recommandations-là sont suivies? Est-ce que justement la formation des policiers a été revue? Et nous, ce qu'on se rend compte, c'est que les policiers, c'est juste la requalification de tir qui est exigée. T'sais, les autres formations, c'est vraiment un peu sur une base volontaire. Donc, est-ce qu'il devrait y avoir une obligation? Puis ça a été beaucoup discuté durant les audiences de l'enquête publique sur la mort de Pierre Coriolan. L'urgence qu'il y ait une formation continue, l'urgence qu'il y ait une mise à niveau, notamment en santé mentale, parce qu'on le sait, surtout dans les grandes villes comme Montréal, il y a des problématiques d'itinérance, il y a des problématiques de santé mentale. On a vu aussi tout ce qui est la question du profilage. Donc, il faut miser là-dessus. Il faut que les policiers soient à jour dans leurs connaissances aussi.
Dans l'enquête qui est publiée aujourd'hui dans Le Devoir, Amélie, là, il y a un angle très intéressant sur le fait que les personnes de minorité visible sont souvent surreprésentées là, chez les victimes des balles de la police. Et il y a une explication qui est, je dirais, quasiment sociologique, une partie de l'explication quand même.
Oui, ben c'est ça. Ma collègue Stéphanie, elle a pu parler avec des gens d'organismes qui nous soulignaient le fait aussi que parfois, chez les communautés immigrantes, là, je veux dire, c'est la santé mentale est encore un peu tabou. Donc, c'est certain que pour ces personnes-là, parfois, c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Et donc, elles se retrouvent à vivre des situations comme celle-là, d'être aux prises avec des hallucinations, des choses comme ça. Puis, évidemment, ça peut se virer à un appel au 901 pour de l'aide, mais qui est mal, répondu.
Amélie, on s'est parlé hors d'onde, puis je veux pas vendre le punch de ton article de demain, mais t'es allée à l'école de police, tu l'as mentionné tantôt. Si je comprends bien, quand quelqu'un est devant nous avec un couteau, même si c'est un couteau jouet, là, comme dans ces simulations-là, 7 mètres, c'est quand même une distance qui est courte.
C'est une distance qui est courte. C'est certain que, je suis une citoyenne, j'ai pas les réflexes qu'on peut acquérir en ayant la formation, mais tu sais, le couteau, là, pour vous donner un avant-goût, là, c'est un couteau à choc électrique. Là. Donc, quand la personne me touchait, je sentais la douleur qui pourrait être associée à un coup de couteau. Mais c'est sûr que c'est pas beaucoup. Après, comme je le disais un peu plus tôt, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même des corps de police où il y a des intervenants sociaux qui travaillent avec les patrouilleurs, qui est peut-être aussi une clé pour l'avenir, pour que lorsque des situations où il y a une personne en crise, on puisse peut-être prendre plus de temps pour essayer d'éviter que ça soit une tragédie et peut-être mieux orienter ces personnes-là vers les ressources, c'est-à-dire les hôpitaux ou tout ça, ou un organisme.
C'est vraiment intéressant, Amélie. Ça ouvre une conversation, là, je pense, qui est nécessaire. Bien, hâte de lire ça demain. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut, c'était Amélie Pineda, journaliste d'enquête au Devoir. Vous irez lire ça dans le Devoir. C'est très bien fait. Demain, la suite et après-demain aussi. Là, c'est, écoutez, il s'agit pas de jeter la pierre aux policiers qui sont bien souvent des travailleurs sociaux. Amélie l'a dit, là, 70% des appels à Montréal concernent des cas de santé mentale. Régis Labeaume, après la tragédie de l'attaque de l'Halloween en 2020, l'avait mentionné. Les policiers répondent à beaucoup trop d'appels de santé mentale. Ça veut-tu dire qu'il faut pas que la police fasse son travail? Non. Ça veut dire qu'il y a une réflexion globale à avoir. Et dans le Devoir, là, on lance cette conversation. Je trouve ça très intéressant.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.